Là, une partie va être francophone, parce que ce sont les Français qui sont là, et la même population, une partie va parler portugais et va être dans un ensemble différent. Et chaque colonisateur essaye de tirer ses populations vers d'autres systèmes de valeurs. À partir de ce moment, on assiste à ce que j'ai appelé l'encapsulement des cultures. La diversité culturelle, qui implique notamment le respect des droits des groupes défavorisés, des minorités nationales, à accéder librement à l'expression de leur propre culture et à celle des autres, la libre circulation des idées par le mot et l'image est alors perçue comme une porte ouverte sur l'étranger pour que son influence subvertisse les identités fragilisées. Mais, et là, certains se sont demandé dans les années 60, pourquoi en Afrique l'âme culturelle a joué un rôle si important dans les mouvements de libération nationale. Ceux-là n'ont pas su percevoir que ceux qui ont été arrachés et qui sont partis, on a dit que c'est pour les sortir du paganisme, on a dit que c'est pour qu'ils deviennent les enfants du Christ, c'est pour les sauver, c'est pour sauver leur âme, etc. Et ceux qui sont restés également, leur religion originelle a été transformée en religion, on a satanisé les religions traditionnelles, et donc ce sont les religions du livre qui sont venues, c'est-à-dire la religion chrétienne et la religion musulmane, et la perception que ces religions ont eue de l'identité culturelle au plan religieux, c'est que soit c'est le Satan, soit c'est Shaitan. Il faut absolument mettre ça de côté. Donc, une position de force qui, dans une société de tradition orale, il y a eu une fragilisation de cet héritage, de ce patrimoine immatériel qu'étaient les traditions orales, et cela a joué beaucoup contre l'identité culturelle, et il y a eu une forme de discrimination. Donc, c'était normal qu'au moment dans les années 60, au moment après la Deuxième Guerre mondiale, que la première arme dont les intellectuels se soient saisis, ce soit l'arme culturelle. Et des mouvements comme les mouvements de la personnalité africaine, le panafricanisme, la négritude, etc. Sous différentes formes, il y avait d'abord, j'en dis, il faut que nous ayons une identité culturelle. Cette identité qui a été déniée, sur laquelle il y a eu discrimination, il faut absolument qu'on revendique et qu'on la reprenne et qu'on dise, c'est nous, nous sommes présents au monde, nous ne sommes pas absents. Donc, nous allons maintenant passer à la troisième phase, si vous voulez. Après donc, cette phase coloniale, nous avons, avec la période des indépendances, l'accent va être mis sur ce qu'on a appelé la construction nationale, c'est-à-dire avec les nouveaux États qui étaient objectivement des États artificiels, composés de populations qui ont été rassemblées au gré des rencontres d'explorateurs ou de frontières qui ont été tracées au cordeau par le traité de Berlin de 1885. Il fallait maintenant, dans les années 60, avec les indépendances, les pères fondateurs des nations africaines nous disaient qu'il fallait une discipline de fer. Et alors, il nous disait que momentanément, il fallait mettre les droits de l'homme de côté et qu'il fallait mettre l'accent sur une culture de développement qui est fondée sur le monopartisme, le parti-État. C'était donc le refus du pluralisme, c'était le refus de l'alternance politique, c'était le refus de la liberté d'expression. Toute critique était considéré, était perçu comme déviance, était considéré comme rébellion, était considéré comme subversion, que les appareils de répression se chargeaient de mater sans tenir compte du respect des droits de l'homme. Alors, il y a donc un clan qui va prendre le pouvoir et qui va dire, ici, pour le moment, on est obligé de faire de la discrimination positive. Et il faut se mettre au travail, mais très vite, les populations vont se rendre compte que se trouve au pouvoir une oligarchie qui est l'ethnie, soit c'est l'ethnie du chef de l'État qui est en fait au pouvoir et non pas toute la nation, soit c'est une région qui est au pouvoir et non pas la nation, et les frustrations vont commencer à monter parce que les populations de plus en plus vont exiger leurs droits. Et donc, à partir des années 70, les jeunes, les femmes, les travailleurs, la société civile, ils vont progressivement monter au créneau pour imposer une autre priorité, celle de la démocratisation, de la bonne gestion et de l'état de droit. Cette nouvelle priorité a permis à des peuples, hier encore muets, résignés et soumis, d'organiser des conférences nationales, d'imposer le multipartisme et l'organisation d'élections de plus en plus libres. Ces transitions démocratiques qui ont imposé des mutations véritablement historiques se sont opérées tantôt sans violence, tantôt dans une atmosphère de fragilité extrême due à la vivacité d'antagonismes tribaux, ethniques, régionalistes, ou bien à la persistance d'intégrisme et de manifestations de violence. Cet aspect de la démocratisation de la vie politique africaine et qui a aidé à repousser la discrimination qui fait que les citoyens qui étaient des citoyens entièrement à part vont devenir des citoyens à part entière.